Très bien. Alors, je vous invite à un temps de louanges, des louanges qui seront soutenues par des vidéos. On va prendre d'abord trois chants qui nous orientent vers le Père qui nous aime, vers Jésus notre Sauveur et vers l'Esprit qui nous conduit. Il nous disait à un moment donné dans un département, je ne sais pas comment ils appellent là-bas, une région d'Inde, une nouvelle loi, on n'ose plus prier avec les malades. Alors ils ont dit, bon, on a arrêté de prier avec les malades. Mais vous savez ce que Dieu a fait, nous a dit, les gens entraient dans l'église, ils étaient guéris en entrant. On n'imposait plus les mains, mais Jésus continuait son œuvre. Donc à un moment donné, dans ces contextes-là, peut-être aussi, les barrières que veut mettre aussi Satan, souvent à ça, Dieu est plus puissant. Et je crois que c'est des encouragements. Et j'aimerais aussi ce soir que ce message a pour but de nous faire prendre conscience que c'est seulement l'action de Dieu, le souffle de son esprit, qui peut vraiment redonner la vie à nous qui l'avons découvert, mais aussi à toutes les personnes qui nous entourent et qu'on a l'impression qu'ils sont juste, il leur manque quelque chose, ils sont déconnectés de la source de la vie. Et je vais prendre un texte qui est dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 37. Ce texte est certainement connu, en tout cas à ceux qui sont chrétiens depuis de longue date, ont certainement déjà lu ce texte, le texte de la vision des ossements morts, des ossements desséchés. Ce texte peut aussi être utilisé parfois pour interpréter des prophéties bibliques sur Israël. Je ne vais pas le prendre sous cet angle-là. Je vais plutôt le prendre pour, en utilisant certains éléments de ce texte qui contient des promesses universelles qui sont valables encore pour nous aujourd'hui, des promesses qui entrent dans cet évangile, dans cette bonne nouvelle de salut et de vie éternelle qu'on a en Jésus. Alors, on va passer à la slide suivante. On va lire le texte. Il est aussi affiché là. Donc, si vous n'avez pas de Bible ou si votre portable est déchargé, vous pouvez lire là. Ouh, c'est assez petit, mais peut-être que vous allez quand même pouvoir remplir quelque chose. Voilà. Donc, Ézéchiel 37, les versets 1 à 14. Je vais lire dans la version second 21. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces os, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu que leurs nerfs apparaissaient. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'ils m'avaient donné. Alors l'Esprit est entré en eux, et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi, prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Je vais mettre la slide suivante. Quelques mots du contexte. J'aime toujours bien situer un peu les textes où ils se trouvent. Donc on est ici dans Ézéchiel. Donc ce livre a été attribué en général à Ézéchiel, hein, donc le prophète Ézéchiel qui a été déporté avec tout le peuple d'Israël à Babylone. Mais ce livre a sans doute été compilé et mis en forme par ses disciples après l'exil, quand ils sont revenus d'exil au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est écrit bien sûr aux destinataires qui sont les Judéens exilés à Babylone avec Ézéchiel. Mais le message s'élargit aussi au reste. Il y a une partie qui était restée en Juda, qui n'ont pas été exilés, c'est aussi pour eux. C'est pour les nations voisines et c'est finalement pour l'ensemble d'Israël dans une perspective de restauration future. Donc c'est aussi nous. Si nous, on entre dans ce processus de restauration que Dieu a commencé par Israël et qui s'est poursuivi par Jésus, on est aussi directement concerné par ce texte. Donc il a été écrit dans une période, vous savez qu'en simple, l'exil au VIe siècle, pendant les 20-22 ans du ministère, il y a des dates très précises dans le texte. Il l'aurait écrit donc à Babylone, une première rédaction, et puis qu'il y aurait une remise en forme qui se serait faite après le retour de l'exil. Pourquoi il a écrit ce livre? Il a écrit dans une situation aussi pour répondre à une situation dramatique, l'exil à Babylone, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà le contexte dans lequel il a écrit ça. Alors un des points, un des objectifs, c'était tout d'abord d'expliquer la catastrophe, l'exil, qui a eu des péchés de son peuple, que c'est un jugement de Dieu qui est vécu ici. Mais c'était aussi pour dénoncer des faux espoirs. Certains pensaient que Jérusalem et son temple ne tomberaient pas. Et puis ici, il annonce qu'ils vont tomber. Donc c'est aussi pour faire tomber un peu des attentes qu'ils avaient. C'était aussi pour préserver l'identité d'Israël en exil. Vous imaginez, pendant 60 ans ou 70 ans, ils étaient dans un autre pays, d'autres habitudes. Donc un appel aux exilés à ne pas se fondre dans les nations, mais à rester fidèles à Dieu. Il y a aussi une annonce de l'espérance de la restauration. Donc le livre prépare à la renaissance du peuple, à la réunification des tribus d'Israël avec la tribu de Juda. Donc le texte suivant, il y a encore une autre prophétie qui explique que ces tribus qui étaient séparées jusque-là se remettent ensemble. Et c'est aussi dans ce contexte-là que le texte que je viens de lire se situe. Et finalement, un autre objectif d'Ézéchiel, c'est de montrer la sainteté de Dieu. Donc le livre insiste sur la gloire de Dieu qui n'est pas limitée à Jérusalem, mais qui suit son peuple jusque dans l'exil. Et ça permet de comprendre au final que Dieu est souverain sur toutes les nations, indépendamment d'où ils sont. Donc Israël, Dieu reste souverain même qu'ils sont en déportation. Je vais avancer dans les slides. Qu'est-ce qui nous dit ce texte en résumé? Tout d'abord, j'ai une confrontation avec la réalité. Dieu confronte Ézéchiel avec la réalité pour finalement aussi affirmer que Dieu sait tout, l'omniscience de Dieu. Et avant que Dieu parle à Ézéchiel et lui demande de prophétiser, avant de lui faire voir cette vision, il est dit que la main de l'Éternel reposait sur Ézéchiel. Dans d'autres traductions, il est dit « la puissance de Dieu s'empara de lui ». Donc ce qui s'est passé était sous l'autorité de Dieu. Dieu a comme préparé Ézéchiel à accueillir cette vision et les paroles de Dieu. On peut s'imaginer, ce n'est quand même pas une vision simple, une vision certainement assez compliquée pour lui qui vivait dans cette situation d'exil, mais Dieu l'a préparé, a mis sa main sur lui. Il y a ensuite la vision des ossements, une vision extrême, une vision d'une vie passée, des os, une vision de mort, une vision de désolation, une vision de c'est fini, il n'y a plus rien. En général, quand on voit des os, on s'imagine juste qu'il y a eu un être vivant, il reste ça, et même ça, à un moment donné, même l'os va se devenir poussière, retourner à la poussière. Et ici, c'est intéressant, l'Éternel a commencé par faire prendre conscience à Ézéchiel de la situation, il l'a confronté à la réalité. Et il est dit qu'il l'a fait passer près des ossements, tout autour. Donc, c'est comme si, voilà, la réalité, c'est ça, Ézéchiel. Il y a un nombre important d'ossements, il est dit. Il dit ça, mais ils sont importants. La vallée est remplie d'ossements, très nombreux. Et non seulement c'est des ossements, mais des ossements qui sont secs, donc ça fait un moment qu'ils sont là. L'Éternel pose ensuite une question. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? La réponse est courte de Ézéchiel, mais certainement révélatrice de l'incapacité d'y répondre, en tout cas pas au niveau purement humain, ou purement réflexion, ou alors d'y répondre de manière très désespérante, on ne le lit pas, mais moi j'aurais peut-être dit non, jamais, impossible. Et Ézéchiel dit simplement à l'Éternel, c'est toi qui le sais. Moi, je ne sais pas. Il aurait pu dire, je ne sais pas, c'est intéressant. Mais il l'a tourné positivement. C'est toi qui le sais. Il reste dans une affirmation positive. Et ce texte ensuite vient avec ces paroles prophétiques qui redonnent vie progressivement. Donc on voit la parole prophétique qui redonne vie à ces ossements ou à ces ossements qui sont à cette vie qui va revenir. Donc Dieu donne l'ordre à Ézéchiel de prophétiser à trois, même quatre reprises sur les eaux, verset 14. À l'intention de l'esprit, prophétise. Et finalement, prophétise, il ne nous a pas dit précisément, mais on comprend que c'est à toute la communauté d'Israël. Et au moment où il a prophétisé, on voit Ézéchiel, il prophétise exactement, mot par mot, ce que l'Éternel lui a dit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit. Les os se sont mis ensemble. Ils ont été couverts de nerfs, de chair, de muscles, de peau. Mais il n'y avait pas encore l'esprit en eux. J'ai envie de dire, il y avait l'anatomie, il y avait tout ce qu'il y avait besoin, mais il n'y avait pas encore l'esprit, le souffle de vie. Et pour donner souffle de vie, Ézéchiel s'est adressé à l'esprit en lui demandant de souffler des quatre vents, des quatre points cardinaux, de souffler de partout, de donner vie à ces êtres qui ont été reconstruits, mais pas encore vivants. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit est entré en eux, ils ont repris vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tenus debout sur leurs pieds, ils sont mis debout. Et ils formaient. Ils formaient quoi? C'est quand ils se sont mis debout? Une armée nombreuse. Et le texte dit très nombreuse. Donc vous imaginez l'image de ces os. Alors il y en a peut-être beaucoup, mais ils voyaient, tout à coup, on voit une armée qui se lève de ces os. Donc c'est une image forte. Ce n'est pas des individualités qui se sont levées, pouf, pouf, et qui reprenaient chacun leur vie de son côté, mais c'est une armée. Dans d'autres textes, ce mot utilisé, on parle d'une troupe, on parle de vaillants soldats. Ils se tenaient debout, prêts à combattre sous l'ordre d'un chef de l'armée de l'Éternel. Et la troisième partie que nous dit ce texte, il y a une révélation de la signification. Là, Dieu commence d'expliquer à Ézéchiel ce qu'il lui dit, avec des paroles d'espérance. Donc devant cette vision, vous imaginez, d'une armée nombreuse, très nombreuse, l'Éternel lui dit, tous ces os, c'est la communauté d'Israël qui est en déportation, loin de son pays, loin de son temple, loin du lieu voulu par Dieu pour son peuple. C'est un peuple désespéré qui crie, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Et c'est là que Dieu demande à Ézéchiel de prononcer la dernière prophétie, celle qui va redonner l'espérance à Israël. Et on va la relire, elle est magnifique. Je vais, verset 12, deuxième partie. « Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. » Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferez sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Je vais passer à la slide suivante, s'il te plaît. Ah, que retirer de ce texte que j'ai un peu résumé, mis en évidence certaines choses qui ont retenu mon attention? Je vois un peu deux volets ici sur lesquels j'aimerais entrer un peu plus en détail sur ce que ça peut dire concrètement pour nous aujourd'hui. D'un côté, on voit la mort et Dieu voit une armée. À notre regard, il est confronté à la réalité. Et comme Ézéchiel, Dieu veut nous faire voir cette réalité avec une perspective de vie possible ou de vie qui revient. C'est nous qui pouvons changer ce regard. Il faut que je regarde autrement, il faut que je vois ces gens autrement. Non, c'est la parole de Dieu qui a changé ce regard. C'est ce que Dieu dit avec ses promesses qui a le pouvoir de changer la réalité. Des fois, on est limité à nos sens, à ce qu'on sent, à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, ce qu'on entend, etc. Mais il y a une réalité augmentée. Tout à coup, il y a quelque chose qui vient de plus important. Et c'est que la parole de Dieu qui a cette capacité. Ce qu'Ézéchiel a vu dans cette vision, c'était la réalité. Il n'a pas inventé. C'était ce qu'il voyait. C'était juste. C'était bien comme ça qu'il le sentait. Lui et toute la communauté déportée, ils étaient morts, bien que vivants. En absolu, ils n'étaient pas morts. Ils étaient comme morts. C'est bien ça qui... C'est ça qu'il comprenait, c'est ça qu'il vivait finalement. Et puis quand il a vu ça, ses ossements, il a dit, effectivement, on se sent comme ça, on est mort. Donc Dieu a vu cette réalité. Donc Dieu part de nos visions des réalités pour les amener à sa vision. Ici, c'est une vision d'ossements desséchés en vue d'une vision d'une armée vivante, nombreuse, très nombreuse. Et cette armée, c'est celle formée par le peuple d'Israël, mais aussi... finalement, au travers de la promesse qui a été donnée par Dieu à Abraham, qui sera une bénédiction pour toutes les nations, nous entrons dans cette armée vivante qui se bat. On peut dire que cette armée aujourd'hui, c'est l'Église, c'est le corps du Christ, avec tous ses membres liés les uns aux autres. C'est aussi un corps qui a une fonction d'armée, qui a des... On verra tout à l'heure, les armes qu'on a, ce n'est peut-être pas les armes destructives qui tuent, mais c'est des armes que nous avons avec lesquels nous sommes invités à nous revêtir et à entrer dans cette armée. L'armée conforme est une armée de foi. C'est une armée, c'est pas une armée terrestre, mais on est là pour proclamer la victoire réelle et complète de Jésus sur le mal. Une armée qui lutte, et là je cite Éphésiens 6, verset 12, contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il est dit avant qu'on n'a pas lutté contre les hommes, mais contre ça. Et ça, c'est notre part du combat. Mais ça doit aussi se manifester par des pas de foi, des actions que Dieu nous met à cœur, des paroles qu'il nous donne pour obéir, pour effectuer ce qu'il nous demande de faire, pour que la vie revienne là où nous voyons la mort. Et vous allez me dire, mais pourquoi se battre? Cette armée, elle se bat pourquoi? Alors j'ai mis toute une liste là. Alors pour faire connaître l'Évangile, ça je pense qu'on est des églises évangéliques, donc on veut partager l'Évangile pour que d'autres deviennent des soldats vivants, des personnes qui entrent dans cette armée de l'Éternel. On va participer prochainement au Turning dans 3 semaines et là on va partager l'Évangile. Ça c'est une façon de se battre. Mais on peut aussi se battre pour la justice sociale. C'est aussi un combat. Pour la vérité. Pour la paix. Ceux qui sont sensibles à l'environnement, pour le soin à la création. Dieu l'a créé un monde pour qu'on en prenne soin. Il nous l'a dit, prenez soin aussi de ce monde. Mais ça peut aussi être se battre des fois pour la vie pleine. Qu'est-ce qui vous rend vivant, réellement vivant? Qu'est-ce qui me rend vivant? Il y a des fois des choses où vous dites, là je me sens vivant. Je ne sais pas si ça vous arrive. Là je sens la vie en moi. Puis d'autres choses, là je me sens plutôt mort. Qu'est-ce qui vous rend vivant? Et se battre pour ça. Qu'est-ce qui me rend réellement vivant? Ou alors se battre peut-être pour prendre soin de soi, entrer dans le repos. Parfois, c'est un combat d'entrer dans le repos. J'essaie de faire maintenant le samedi un peu Shabbat de mon côté, mais c'est un combat. Alors, vous allez me dire, c'est une habitude à prendre. Mais non, on est quand même environné de plein de choses à faire. Et là, à un moment donné, je m'autorise de poser quelques temps. Dieu continue de son œuvre, Dieu agit. La vie revient sans que je fasse rien du tout, moi. Donc voilà, il peut y avoir plein d'autres choses pour lesquelles on se bat. Tu peux revenir en arrière un peu, je crois que tu as trop avancé là. Encore une en arrière. Vous voilà ici comment se battre. Donc je pense qu'il y a un peu deux dans la prière et l'action qui en découle. Vous priez, nous prions. Comment prions-nous? Et parfois, quand je suis en temps de prière, ou ça peut être des fois dans la journée, ou tout à coup, je pense à une personne, et puis de l'église ou quelqu'un d'autre, et tout à coup, j'entends, je sens vraiment comme une prise de conscience de X, Y. Alors souvent, je la bénis, mais parfois aussi, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça peut être une façon de dire, un exemple tout simple, je prie, je suis en relation avec lui, et mon action, c'est peut-être de lui envoyer un message, de lui dire, OK, comment vas-tu? Je pense bien à toi. C'est un exemple tout simple, tout bête, on peut dire, mais ça peut être ça. À un moment donné, la prière, elle nous connecte à Dieu et elle nous met à l'action. Et ça, c'est aussi un combat. C'est-à-dire, on entre peut-être dans, peut-être cette personne est en train de vivre quelque chose de difficile et on dit, on pense à toi, on prie pour toi. Et il y a quelque chose qui se met en mouvement avec la prière. Ce que nous vivons actuellement avec l'Église, ces 100 jours pour développer la culture d'honneur, c'est un combat. Ce n'est pas simple. En tout cas, je ne sais pas comment vous le vivez. C'est quelque chose, on s'est mis en route. On a entendu Dieu nous parler, nous dire, ce n'est pas seulement le week-end avec Thierry Juvet et Monique, OK, c'était super, mais il faut qu'on fasse quelque chose maintenant. Nous, on a besoin de s'honorer plus, de développer ça. Et on a mis ça en place, on a mis des groupes, ça a commencé, donc c'est tout un travail. Alors, combat, on s'entend, ce n'était pas forcément avec beaucoup de résistance non plus, mais quand même, c'est aussi ça. Ça peut être de participer, ça peut être d'y aller, il y a peut-être des soirs où vous direz, mais j'ai juste pas envie d'y aller. Alors, vous êtes toujours à liberté, je ne vous dis pas, allez-y, mais ça peut aussi être des fois ça. Non, c'est un bon projet, je m'engage, c'est bon pour l'Église, c'est bon pour moi, c'est bon pour nous. Pour être aussi cette armée vivante aussi qui sait aussi s'honorer les uns les autres. Dans l'adversité aussi. S'il y a une armée, elle peut être des fois dans l'adversité. Et puis là, qu'on puisse rester dans s'honorer les uns les autres, même dans les moments plus difficiles. Et puis ça peut être, en faisant référence à cette image générée par l'IA, merci IA, j'ai dit est-ce que tu peux me faire une je ne sais plus comment j'ai dit, l'armure du chrétien selon Éphésiens 6, 14, 17, puis après il m'a dit, voulez-vous que je vous fasse une sous forme graphique? J'ai dit oui, c'est tout juste. Donc, la référence, c'est moi qui lui ai donnée, c'est pas lui qui l'a inventée. Il y a une erreur. La vérité, c'est quand même pas parfait. La vérité, Ça, c'est la vérité en guise de cuirasse, de ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures à vos pieds, qui se portent de zèle pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi. Vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal, le casque du salut. Et puis, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est notre armure, ça, c'est nos armes. On parlait de vérité, se battre avant pour la vérité, se battre pour la justice, on retrouve tout ça ici. On retrouve ça ici, partager l'évangile, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Ça, c'est la seule arme offensive, c'est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Alors c'est nous qui la portons, un peu comme Ézéchiel, il a prophétisé, il l'a dit. Et j'ai l'impression des fois que nous aussi on tient, mais après ce qu'on dit, les paroles, c'est Dieu qui nous les donne, c'est la parole de Dieu qu'on peut proclamer dans certaines circonstances, et ça amène aussi des changements. Le deuxième volet de ce que nous dit ce texte, pour moi je vois qu'il y a des signes du réveil. Tu peux passer à la suivante s'il te plaît. Qu'il y a des signes du réveil, et puis... Prions pour que l'Esprit de Dieu souffle des quatre vents. Je vois que l'heure est déjà un peu avancée. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais on a fait au niveau du réseau un peu un résumé de quelques événements qui ont été aussi relayés dans les médias, mais aussi dans les revues missionnaires sur ce qui se passe un peu en Europe. Alors, je vous donne juste un exemple. Il y a parmi la jeunesse britannique, ils appellent ça le « Quiet Revival ». Quiet Revival, donc c'est un réveil quiet. Mais qu'est-ce que c'est en clair? C'est la Société biblique suisse, elle montre qu'entre 2018 et 2024, la fréquentation régulière des églises parmi les 18 à 24 ans est passée de 4% à 16%, quadruplé. Avec, pour les hommes, c'est même 21%. Ça, c'est un des éléments. Ce renouveau, par exemple, il y a une fréquentation aux offices de 50% en 6 ans. En Angleterre et au Pays de Galles, avec une forte implication des jeunes dans la prière, dans l'activité liée religieuse, dans une réorientation vers une spiritualité accrue. Dans d'autres pays, on voit ce phénomène. En Suède, par exemple, je ne sais pas si quelqu'un a lu ça, Jésus a été élu l'influenceur de l'année en 2024. Donc, à un moment donné, Jésus touche aussi à travers les réseaux sociaux. Il y a des mouvements de jeunes leaders et évangélisation en Europe. Il y a une initiative qui s'appelle Revive Europe qui est dirigée vers des étudiants qui encourage la formation de 100 jeunes leaders destinés à rejoindre, ça c'est à Londres, Awakening Project, c'est un projet à Londres qui est particulièrement propagé parmi la génération Z. Après, il y a des mouvements concrets de renouveau, il y a des églises qui se créent, latino-américaines, africaines, chinoises, qui prolifèrent dans les villes européennes, Espagne, Royaume-Uni. Il y a des implantations d'églises. En France, on vise une église évangélique pour 10 000 habitants. Ça, c'est l'objectif et c'est en route, avec environ un nouveau lieu de culte chaque semaine qui s'ouvre en France. Ouais, c'est déjà en route, on voit ça. Des régions, c'est même plus. Il y a un mouvement de prière qui actuellement, vous avez déjà entendu parler du mouvement de prière 24/7, donc c'est des lieux où on prie continuellement, on prie notamment pour le réveil, mais que l'Esprit Saint aussi agisse. Et il y a actuellement 22 000 salles de prière, ces prières 24/7, dans 78 pays, dont beaucoup en Europe. Et l'Allemagne était un des premiers pays, c'est un des plus actifs dans ce domaine-là, ils ont un de ces lieux de prière qui est actif depuis 110 000 heures d'affilée. Donc ça fait plus de 12 ans qu'il prie. Donc il y a un mouvement continu de prière, et ça fait aussi partie du réveil, je pense, tout ça. Et l'unité chrétienne aussi est accrue. Dans différents pays, on voit aussi des églises se mettre ensemble. En Norvège, un rassemblement annuel de 9 000 jeunes de 29 organisations chrétiennes norvégiennes, 29 différentes, ils se rassemblent. Je reviens tout à l'heure à la Suisse. C'est déjà l'Europe, ce n'est pas les États-Unis, donc ça s'approche. Ici, c'est l'épicentre, peut-être. Ça va prendre un peu plus de temps. Mais oui. Je termine juste avec ces quelques éléments là de cette. Il y a par exemple deux profs qui ont signalé aussi ici un prof de l'université de Vienne qui évoque une tendance révolutionnaire, réactive face à la sécularisation, appelant les églises à répondre avec créativité à cette dynamique parmi les jeunes. Un autre prof, Gunnar Megi, qui est aux Pays-Bas, il estime que l'Europe est pré-réveillée. Donc on n'est pas encore réveillé, mais pré-réveillé, et n'est pas post-chrétienne. Post-chrétienne, ça fait un peu, c'est fini, quoi. Mais il est pré-réveillé. Il observe une ferveur de louange et une soif spirituelle inédite dans la jeunesse. Et il y a aussi des signes en Suisse. Je viens en Suisse, il y a l'Office fédéral de la statistique qui a publié au mois de juin une nouvelle statistique tous les 4 ans sur la religiosité en Suisse. Et il y a aussi des signes positifs. C'est déjà la première fois dans les statistiques qui relèvent les églises évangéliques. Jusque-là, c'était un peu autre mouvement religieux. Donc c'est comme si quelque chose qui devient plus visible, ça devient suffisamment visible pour qu'on en parle dans les statistiques. Et puis là-dedans, alors de manière très générale, hein, mais 40% de la population prie au moins une fois par mois. Alors c'est la prière générale, hein, donc c'est pas encore, mais quand même, il y a une soif de se connecter une fois par mois à quelque chose de spirituel. La part des églises évangéliques, là je fais un peu de la pub pour nous, entre guillemets, hein, elle est restée stable en 4 ans, on est à 6% de la population. Vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, c'est vrai, c'est pour ça que c'est des signes, hein, ce n'est pas encore des réveils. Mais c'est stable alors que les autres confessions sont en nette diminution. Donc on peut dire que c'est quand même un signe, on peut dire positif ou un signe qui est aussi visible. Ce qui est aussi étonnant, 51% de la population est plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation qu'une pensée plus spirituelle serait bénéfique pour la société. Le lien un peu, hein, entre... voilà. Et puis la moitié, encore une dernière élément de cette statistique, la moitié de la population croit en une vie après la mort. Plus de la moitié. J'ai l'impression que certains n'y pensent pas ou ne se posent jamais la question, mais là dans ces statistiques, c'est quand même important. Plus de la moitié. Et chez nous, hein, Genève, Versoix, je pense que ce qui est un peu le fil dans ces différences, c'est que dans la jeunesse, il y a un réveil qui vient. Et on le voit aussi dans la jeune génération, à Interjeune, à Genève, ils ont rarement, comme ces dernières fois, des jeunes qui viennent, des jeunes aussi qui viennent, invités par leurs copains. Ils n'ont pas fait des grandes... C'est vraiment du bouche à oreille. Ils viennent, ils sont touchés aussi par Dieu. À une paroisse sœur hein, de la rive droite, ils ont engagé aussi un pasteur qui a à cœur aussi la jeunesse. Il m'a dit, mais c'est beau de voir des jeunes qui viennent, qui se donnent à Jésus. Ça a l'air assez simple. Après, la fois suivante, ils prennent des copains avec de leur quartier et ils disent, mais c'est ça que je veux, c'est ce Jésus-là que je veux. Et ils se convertissent assez naturellement et spontanément. Et je pense qu'il y a aussi cette soif parmi la jeunesse de Versoix. Je ne sais pas où elle est la jeunesse de Versoix, je ne la connais pas ou peu. On a quelques jeunes dans notre église qui sont là, qui viennent difficilement actuellement, ce n'est pas simple. Mais il y a un enjeu dans cette jeunesse hein, et je pense vraiment qu'il y a un enjeu réel pour nous, pour notre église, mais aussi pour ce lieu. Parce que c'est là, hein, à un moment donné, je vois aussi Dieu, il agit. Nous, les plus âgés, on est des fois un petit peu plus difficiles à réveiller ou à réveiller ou à voilà, mobiliser pour témoigner, etc. Mais que ça peut venir par la jeune génération. On a aussi, il y a 2 ans, là, aussi au Turning, on a eu quelques contacts avec des gens qui ont montré aussi que les gens sont ouverts à recevoir l'Évangile. Donc voilà, en conclusion, ces signes sont encore modestes, et localisés, mais ils montrent qu'il y a une quête spirituelle parmi la jeunesse européenne et aussi ici en Suisse. Je cite ici le verset 17, « Il y a un bruit, un mouvement s'est produit et les os sont rapprochés les uns des autres. » J'ai un peu l'impression qu'il y a un mouvement qui est parti, il y a des bruits qui commencent à se faire entendre. Ce n'est pas encore des grands bruits, mais il y a comme un mouvement qui est parti. Et c'est l'Esprit Saint qui amène la vie, qui donne la vie ou qui redonne la vie pour qu'on puisse vivre aussi pleinement. Voilà, le réveil, c'est toujours un sujet, je ne vais pas entrer dans voilà, comment vient le réveil, hein, il y a toujours un peu 2 approches, certains disent le réveil, il faut faire quelque chose, il faut le préparer, il faut mettre en place, et puis il faut agir, et puis il viendra. Et d'autres théologiens disent plutôt, ben, le réveil viendra, qu'on le veuille ou non, qu'on le prépare ou non, souveraineté de Dieu sur le réveil. Donc je pense qu'on est un peu tous... je pense que ce qui nous réunit, c'est qu'on a tous envie de voir le réveil, on a tous envie de voir à un moment donné des gens se tourner vers Dieu de manière étonnante, massive. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Est-ce que ça sera par une préparation? Est-ce que ça sera quelque chose qui va simplement nous dépasser quand ça arrivera? Ça, c'est difficile à dire. Je veux dire un peu comme Ézéchiel, seul toi le sais. Je pense que seul toi, Dieu, sait comment ça va se passer. Mais ce que je pense, c'est qu'on voit dans les réveils, c'est que, en tout cas les réveils dans le passé, hein, il y a eu des réveils, il y a eu le réveil de Genève, il y a eu le réveil méthodiste, hein, il y a eu les réveils avant, il y a la réforme bien sûr, c'est que c'est souvent parti, ou en tout cas en parallèle avec un réveil de personnes, eux-mêmes qui ont été réveillés personnellement, et qu'il y a eu un réveil après de d'autres qui ne connaissaient pas encore Dieu. C'est comme si, est-ce que c'est synchro, est-ce que c'est avant, après, mais en tout cas les deux mouvements, donc... Comme c'est dit dans un chant, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Delirious, je crois qu'ils jouent encore, mais c'est un groupe un peu ancien. Ils avaient un chant qui disait « Envoie le réveil, mais commence par moi ». Et je pense que c'est quelque chose qui est là. Hein. Le réveil, il commence par nous. Comment on est réveillé à ce que Dieu veut faire. Donc voilà, nous voyons la mort, Dieu voit une armée. Ça, c'est une chose que j'aimerais vous laisser. Et puis, il y a des signes du réveil. Prions l'Esprit de Dieu de souffler des 4 vents pour soit faire ce réveil ou pour nous réveiller nous et pour faire aussi que l'Esprit de Dieu puisse agir. En conclusion, la reconnaissance, mettre la dernière slide, ou l'avant-dernière. La reconnaissance envers Dieu est aussi très présente dans ce passage. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, c'est dit deux fois. Ou alors, vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi. Donc, cette reconnaissance envers Dieu est aussi là. Elle se fit dans le présent par rapport à qui est Dieu, je suis l'Éternel. Et par rapport aussi au passé, quand on voit, c'est souvent ça avec l'Éternel, on voit quand il a agi dans le passé, on en voit des signes de sa main. Et c'est aussi être reconnaissant et voir aussi ces signes quand ils sont là. Et pour le futur, là, ce n'est pas de la reconnaissance, mais c'est de la confiance et de la foi en Dieu qui parle et agit par son esprit pour faire avancer son règne, pour nous faire avancer. Donc reconnaissons qu'il y a des signes du réveil. Reconnaissons que nous sommes une armée vivante. Reconnaissons que Dieu nous prend dans son projet de ramener son peuple vers la destinée. Ici, c'était pour les ramener en Israël, mais plus généralement dans l'optique messianique, pour nous ramener tous vers la Jérusalem céleste quand Dieu va revenir et nous rassembler. Et reconnaissons aussi que cette prophétie hein, prononcée par le Fils de l'homme, il est dit à plusieurs reprises, le Fils de l'homme, donc Ézéchiel, se réalise au travers de Jésus, du Messie. À 43 reprises, il a utilisé ce terme de Fils de l'homme dans le Nouveau Testament pour parler de Jésus. Hein, donc on voit vraiment, en prenant ces derniers versets-là, on voit vraiment le Messie et son œuvre. Il a parlé que la vie va revenir sur des os, des morts. Des tombes s'ouvrent. Ben, le tombeau de Jésus s'est ouvert. Les tombeaux vont s'ouvrir pour ceux qui sont morts en Christ. Donc ce mouvement de vie avec Jésus, ben, il est là. Il nous a parlé que nous sommes son peuple. Ben, nous sommes son peuple. Il nous a parlé qu'il déverse son esprit en nous et nous fait vivre. Ben, l'Esprit Saint a été déversé à la Pentecôte, pour nous faire vivre. Et il nous a aussi dit qu'il va nous donner du repos sur cette terre déjà, dans l'attente du repos aussi céleste et éternel que nous aurons avec Dieu. Pour illustrer ce message, je vous invite maintenant à vous lever. On va apprendre, on va écouter et prendre un chant ensemble qui dit « Dieu a une armée qui se lève ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Vous connaissez ? Dieu a une armée qui se lève. Oui ? Alors ça va. Vraiment que ça soit une prière et aussi une manière de dire ben voilà, je fais partie d'une armée qui se lève pour lui obéir. Et qu'on puisse le dire un peu comme une prophétie, d'une part une prophétie que nous sommes une armée, comme le dit ce chant, mais d'autre part aussi comme une prière. On veut être une armée qui se lève pour obéir à Dieu. Si tu peux passer le chant, Daniel, s'il te plaît.